Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Nathalie.
Bienvenue bonsoir ce jeudi dans ce studio. Alors voilà, ça s'agite évidemment. Que se prépare-t-il en coulisses? Dernière consultation ce soir à l'Élysée. De quoi parle-t-on bien sûr du prochain remaniement? Emmanuel Macron reçoit les présidents des trois assemblées. Interview dans la presse régionale avec peut-être les meilleurs extraits ce soir. On vous livrera ça évidemment. Et puis ce remaniement attendu dans les tout prochains jours. Catherine, on a des noms qui circulent. On a des noms qui circulent déjà depuis des semaines. Souvent, quand ça circule très très en amont comme ça, bah après on est surpris.
Oui, mais en tous les cas, il y a des noms qui circulent. Mais ce matin à 9h, le Premier ministre n'était pas fixé, ne savait rien sur son sort. Vous voyez, alors là, ce soir, il à 17h30, il participait à la réunion convoquée chez le président avec les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social, qui doivent faire des propositions pour l'après, le nouveau souffle. Alors, le fait que le Premier ministre y soit, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut dire que le président veut l'associer à ce chemin que... Ou alors c'est juste une consultation? Je veux dire, ça signifie quoi, vous voyez? Donc on ne sait pas, et quand même, si remaniement, ça a de l'importance, c'est savoir ou non si Emmanuel Macron peut se passer d'un Premier ministre qui est plus populaire que lui. Ça s'est toujours fait. François Fillon était plus populaire que Nicolas Sarkozy pendant le quinquennat. Mais là, il a pris quand même une place particulière pendant la gestion du Covid. Il avait vraiment trouvé son ton, c'est devenu une marque, c'est même devenu dans beaucoup de gens l'idée qu'il est imprésidentiable, ce que n'était pas 2 ans avant la présidentielle François Fillon. Donc s'il se sépare de lui, alors que le président qui est moins... est-ce qu'il a raison ou non de se présenter? Mais je crois, des proches disent qu'il n'a pas encore pris sa décision.
Justement, sur ce point-là précisément, corrigez-moi si je me trompe, mais il doit être élu maire du Havre samedi.
Dimanche, précisément.
Dimanche. Voilà, dans 3 jours. Ouais. Donc ce serait étonnant qu'il ne soit pas fixé avant Jean-Rémy Baudot, Michel Cotta.
Moi, je ne crois pas qu'il ne soit pas fixé. Il y a tellement de forces internes maintenant... à la France en marche, à la République en marche ou au Modem. Il y a tellement de forces styles à ce que Philippe reste, malgré, ou peut-être à cause d'ailleurs,
de
ses bons résultats. Il y a une telle opposition, je trouve, du côté des proches d'Emmanuel Macron, pour qu'il ne soit pas... Édouard Philippe est un animal politique... Il comprend les choses. Alors, peut-être qu'on ne lui a pas dit carrément, mais je pense qu'il est tout à fait au courant de cette opposition qui se manifeste à lui.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux choses qui se jouent là. Il y a à la fois la scénarisation de l'exécutif et de l'Élysée autour de la séquence qu'on est en train de vivre, avec effectivement les trois présidents des assemblées qui sont actuellement à l'Élysée, avec Édouard Philippe, vous avez raison Catherine. Il y a demain le Conseil des ministres, avec par ailleurs, entre-temps, une interview dans la presse régionale. Il y a des choses qui se jouent en coulisses, par exemple la négociation du Ségur, par exemple le budget rectificatif qui est actuellement à l'Assemblée, qui empêche pour l'instant tout remaniement. Tant que ce n'est pas voté, on ne peut pas se permettre de débrancher les ministres. Donc il y a cette espèce de scénarisation que l'Élysée met en place. Et puis par ailleurs...
Qui n'est pas nouvelle, d'ailleurs, Jean-Rémy Baudot. Non. Il nous a habitués à ça, Emmanuel Macron.
Oui, mais là on est vraiment dans une séquence qui s'écrit, d'ailleurs qui était annoncée, je me souviens d'un proche conseiller du président, il y a 3 jours, qui m'expliquait déjà un peu cette séquence-là, me disant, voilà, et jusqu'à mercredi prochain, normalement, tout sera prêt pour mercredi prochain, sauf s'il y a, évidemment, disait-il, des retards, par exemple, dans les vérifications. Mais l'autre point que je voulais aborder avec vous, c'était, derrière tout ça, il y a la question du projet politique. Emmanuel Macron, il y a la question de son Premier ministre. A-t-il choisi ou pas? Je serais bien capable de vous le dire pour l'instant, on ne va pas s'avancer trop, mais ce qui est certain, c'est que c'est la question de quelle est sa place à lui, à Emmanuel Macron, dans le dispositif. S'il veut un Premier ministre fort, il peut garder Édouard Philippe. S'il veut un Premier ministre plutôt un exécutant avec un président superstar qu'il incarnerait à moins de deux ans d'une présidentielle pour être d'une certaine manière en campagne tout au long de la fin du quinquennat, il a plutôt intérêt à prendre un exécutant ou une exécutante.
C'est toute la question. Alors attendez, le rôle justement d'Édouard Philippe et la manière dont Emmanuel Macron veut entamer la dernière partie de son quinquennat, vous y allez mesdames dans une toute petite seconde les grandes voix. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Catherine et Michel Cotta et Jean-Rémy Baudeau du service politique. Voilà, c'est la dernière ligne droite avant le remaniement du gouvernement, Catherine Ney. On se parlait évidemment, et Michel Cotta, on se parlait évidemment du sort d'Édouard Philippe. Michel, alors.
Non, je sais que dans les... Il a donc reçu, le président de la République a reçu 9 journalistes de la presse régionale. De province. Ouais. Les 9 journalistes n'ont pas obtenu de réponse, évidemment, sur la question que nous posions. En tout cas, c'est une interview dont on va avoir les extraits incessamment, mais qui est essentiellement économique et prospective. Mais il n'a pas dit grand-chose d'autre. Donc, ça n'est pas dans cette interview qu'on apprendra
qui est le Premier ministre.
Et ce que je voulais ajouter, c'est que oui, c'est vrai que c'est dans un scénario, etc. Ouais. Mais moi, j'ai remarqué, et Catherine aussi sans doute, que quand les remaniements sont très longs, c'est toujours assez négatif.
Il n'en sort pas grand-chose.
Non, oui, c'est pas ça. C'est qu'à la fois, ça enlève l'énergie du Premier ministre qui attend, il faut se mettre à sa place. Dans les cabinets ministériels, je peux vous dire que les gens ne savent pas s'ils font leur caisse, s'ils ne font pas leur caisse, ou ils passent leurs vacances. C'est très mauvais. C'est mauvais parce que les ambitions s'affichent. Et on voit bien que les ambitions des uns et des autres s'affichent énormément. Et c'est après préjudiciable pour la suite. Et on voit enfin que les gens, d'abord, qui n'attachent pas une importance énorme au remaniement, ne retiennent que le fait de « Ah ben alors, on ne sait pas quoi. »
C'est ça.
On ne sait pas. Et alors, et c'est une telle ou c'est un tel dans tel ministère. Ah ben non, ce n'est pas possible. Je trouve que c'est toujours très nuisible. Ça avait duré assez longtemps sur Borloo. Et Fillon,
avec Nicolas Sarkozy,
de la part de Sarkozy,
ouais, pour conforter finalement François Fillon.
Et ça n'avait pas du tout arrangé François Fillon, et ça n'avait pas du tout, in fine, arrangé Borloo.
Et c'est même quand même très étonnant de la part d'Emmanuel Macron, d'une certaine manière, de ne pas être plus prévoyant et de ne pas avoir une liste toute prête.
Mais justement, parce qu'il n'y a pas grand monde sur le banc de touche.
Le problème aujourd'hui, c'est que le problème des ressources humaines.
C'est ça.
Dans le fond... l'audace d'Emmanuel Macron, c'était d'avoir nommé Édouard Philippe quand il est arrivé. Et c'est vrai que pour lui, le Premier ministre rêvé, c'est le Édouard Philippe d'il y a 3 ans. C'est-à-dire qui était à la fois absolument détesté et rejeté par son ex-famille, puisqu'il l'avait quitté, les Républicains, et qui était inconnu de la nouvelle majorité, puisqu'ils ne se connaissaient pas les uns les autres, et qui est une sorte de monsieur Mister Nobody, un peu comme était d'ailleurs Fillon à un moment, alors que lui, il était de la famille. Mais enfin, et donc, il a mis longtemps à émerger... Mais donc, qui prenait la lumière? C'était essentiellement le président. Il a fait un débat où on ne parlait que de lui. Pendant les Gilets jaunes, le Premier ministre n'a pas existé. C'était Emmanuel Macron qui était à la manœuvre et ça lui allait très bien.
Donc, ça plaide pour le scénario de un Premier ministre un peu plus faible et un président qui brillerait temps d'une campagne.
Mais c'est pas qu'il soit trop faible.
Oui, c'est ça.
Voilà, qu'il ne soit pas trop faible et qui va faire regretter... Parce qu'on comparera toujours quand il va parler, quand il va arriver. On dira, ben alors là, c'est pas aux questions d'actualité. Parce qu'il faut du temps pour devenir Premier ministre.
Il faut du temps pour devenir Édouard Philippe.
Oui, en tous les cas, pour Édouard Philippe. Et donc, ça sera au détriment. On dira, mais pourquoi est-ce qu'il s'en est séparé? Pourquoi c'est très, très difficile. Et puis en plus, il faut bien voir que l'équipe gouvernementale, il y a beaucoup de ministres, de grands ministres qui sont usés, qui devraient être remplacés. Eh bien, il faut faire un casting. C'est difficile. Il faut penser à la parité. Et déjà, un casting, il faut avoir l'accord des gens sur le ministère auquel on est prêt, enfin qu'on veut leur confier. Après, il y a l'enquête de la haute autorité pour savoir
vous avez raison, Michel, c'est que ça prend du temps et ça casse un peu l'énergie du remaniement.
Ça casse l'énergie et en plus, aujourd'hui, les préfets le disent, depuis un mois, il n'y a plus aucune décision, on n'a plus jamais aucune réponse sur rien.
Dans les ministères,
donc
tout
le pays est un peu à l'arrêt.
Ceci étant, il y a quand même un grand problème politique derrière tout ça. On a vu Emmanuel Macron l'autre jour se rapprocher des 150 personnalités tout en refusant trois grosses propositions. Mais enfin, faire vraiment de l'écologie plus écologique d'humeur. Et à la fois, si vraiment il faut travailler plus, travailler davantage, produire plus, alors on n'est pas du tout du côté de certains écologistes. Pas de tous, mais on n'est pas à côté des ayatollahs de l'écologie. Et donc, il faudra choisir. Il voulait prendre des grands-mères, par exemple, dans son gouvernement. Mais il ne va pas prendre le maire de Bordeaux ou le maire de Lyon. Ou, ça va être très compliqué. Ouais. Donc, je trouve que les élections ont quand même, et la victoire des écolos, ont quand même sans doute justifié une réflexion supplémentaire, même c'est si c'est mauvais pour
c'est,
tout le
c'est
monde.
Peut-être effectivement Jean-Rémy Bodoz qui fait tarder parce que le résultat de ces municipales et évidemment la couleur que doit prendre cette troisième partie du quinquennat, ce troisième acte, évidemment n'est pas tellement en cohérence avec la marque Édouard Philippe.
Non, ça pose la question et en même temps quand on discute avec l'entourage d'Édouard Philippe cette semaine, je l'ai fait, ses très proches conseillers, ses amis, ils disent qu'Édouard Philippe il pourrait s'adapter. C'est quelqu'un de très politique, Édouard Philippe, politique dans le sens où il est capable de porter des mesures, parfois d'ailleurs, qu'il ne valide pas totalement, mais il est dans un dispositif et il le fait. Alors parfois, on a bien vu ces derniers mois que l'Élysée demandait quelque chose et puis que Matignon le mettait un petit peu à sa sauce et qu'à la fin, ça perdait un peu de saveur, en tout cas la saveur que l'Élysée aurait souhaité. Mais c'est vrai qu'il y a la question de l'incarnation. Est-ce que Édouard Philippe est le mieux placé pour incarner un virage plutôt écologique? Tout à l'heure, Nicolas Hulot, ce matin, il était chez un de nos confrères de la radio et on lui demandait s'il serait intéressant qu'il y ait des écologistes au gouvernement, il disait ça aurait de la gueule, d'accord, mais enfin il faut porter un projet
bien
quand même.
Sûr. Pascal Canfin qui a fermé la porte, d'ailleurs.
Ça n'a pas tellement bien réussi.
Non, par ailleurs.
Et Pascal Canfin qui était cité, pour l'instant dit non, hein. Donc on verra.
Oui,
pour
l'instant,
le jeu des entourages.
Et puis les écologistes, maintenant, dans la plupart des endroits, ils sont à la tête d'une coalition de gauche. Au fond, les socialistes ont disparu, les insoumis aussi un peu se sont rangés derrière eux. Alors je ne dis pas que tous les écologistes sont à gauche. D'ailleurs, on sait que Jadot l'est beaucoup moins que d'autres. Mais enfin, c'est difficile d'appeler au gouvernement quelqu'un qui est dans l'opposition.
Oui, mais on sait très bien qu'avec les Verts, le président Macron n'en fera jamais assez. C'est comme ça. Bon. Et à la fois, tous les Français sont pour les espaces verts, plus d'écologie, mais ils sont contre les taxes. Vous voyez bon. Et quand on voit le score à la présidentielle de Jadot, il est à 8%. Vous voyez, tout ça, si vous mélangez tout ça, vous voyez, quelle politique faites-vous? Mais en tous les cas, moi, j'ai regardé le Premier ministre qui était assis avec les 150 personnes qui ont fait les propositions. Et on sentait, je ne sais pas si c'était la fatigue de la veille de son élection et tout ça, il était ailleurs, il regardait en l'air pour dire... c'est pas possible, vous voyez. Donc, alors, s'il reste Premier ministre, que va-t-il accepter, mettre en musique, jusqu'où il ira? En tous les cas, il y a une chose aussi qui se disait beaucoup ces derniers temps, c'est qu'il avait auprès de lui un directeur de cabinet qui était trop directif, trop adroit, et qu'il faudrait qu'il s'en sépare. Donc, si le président exigeait...
On n'a pas besoin de faire un remaniement pour virer un directeur de cabinet.
Si le président exigeait d'Édouard Philippe la condition... qu'il reste à Matignon et qu'il se sépare de Ribadou Dima, là, je peux dire que le Premier ministre ne resterait pas.
Ah oui, exactement, puisqu'il l'avait déjà imposé. Exactement, la fidélité d'Edouard Philippe, il ne lâchera
pas. Il faut se rappeler que lorsque le Premier ministre a été nommé, il a voulu Ribadou Dima à côté de lui, et qu'on lui a dit non, et qu'il a dit c'est ça ou rien.
Bon, exactement.
Et moi, je ne le vois pas, puisqu'on le dit plus rigide que ça apparaît.
Les Français ne connaissent pas Ribadeau Dumas, mais il y a eu un très grand papier dans Le Point il y a à peu près un mois de ça, effectivement, pour expliquer les atouts, mais aussi parfois les faiblesses de Ribadeau Dumas.
Exactement.
On se retrouve dans un instant, justement, on parlait des Verts. On va Bateau, Hulot, Segault. Hein, ils redonnent tous de la voix là, en ce moment, plus que jamais. On en parle dans une seconde.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec les grandes voix autour de Nathalie Lévy jusqu'à 19h.
Et la bataille de 2022, de plus en plus, ils y pensent, elles y pensent aussi. À l'aune des résultats de ces municipales, les Verts en force avec une Ségolène Royal qui revient toujours.
C'est un secret pour personne. J'ai dit que si... le moment venu, on était capable de se rassembler. Je serais prête à mener cette bataille et ce combat.
Et voilà, elle se dit une nouvelle fois prête pour cette bataille de 2022. Okay. Ségolène Royal, Catherine Ney, sans surprise.
Mais faire don de sa personne à la France, mais oui, c'est pas à chaque fois. De toute façon, elle est prête à entrer au gouvernement, elle est prête à tout. Mais ce qui est extraordinaire, et là, elle est bien la fille de Mitterrand, enfin la fille
spirituelle.
C'est que quand elle est au gouvernement, elle soutient le gouvernement, et dès que si elle ne l'est pas, elle est dans une opposition farouche. Elle peut changer d'un mot. Voilà. Et elle est comme ça, Ségolène. Mais vous voyez, elle est on peut l'admirer parce que elle est infatigable, ouais. Elle a toujours envie, elle peut toujours arriver, et à la fois, qu'est-ce qu'elle est fatigante, quoi. Vous voyez, on se dit encore, mais... Et alors, elle a un bilan qui, comme ministre de l'écologie, c'est quand même elle qui a renoncé à la taxe carbone en disant...
Alors que tout le monde
l'écotaxe, un milliard d'euros, vous voyez. Comme présidente de la région Poitou-Charentes, elle a laissé des ardoises formidables qui ont été dénoncées par Alain Rousset, qui a repris la région et tout ça. Donc, elle a un bilan qui est critiquable, mais qu'elle défend avec acharnement, et elle a jamais tort sur rien. Donc, c'est sa grande force. Elle a une audace extraordinaire, un culot formidable. Et moi, ce que j'admire, c'est d'en avoir toujours envie, toujours prête.
Ah oui. Rien ne l'arrête, Michel Cotta.
Je vais vous dire, au début, je faisais partie des gens qui, la première fois qu'elle a dit qu'elle voulait être candidate à la présidence de la République, on était d'ailleurs ensemble, Catherine, on s'est marrée, en disant vraiment, il n'y a pas d'autre mot, en disant vraiment. Alors, bon. Et puis elle y est allée.
Et oui.
Voilà. Alors, elle bénéficie effectivement d'une conjoncture pas mal, qui est l'éclatement de la gauche. Donc elle peut toujours, à tout moment, si les écologistes n'y prétendent pas à conduire ce rassemblement. Mais effectivement, elle voit personne au Parti Socialiste. Elle se dit que les insoumis sont quand même pas dans une vague portant et surtout pas Jean-Luc Mélenchon. Donc elle se dit, après tout, pourquoi pas
la nature ayant horreur du vide.
Et comme dit Catherine, comme elle ne doute de rien, et pas d'elle-même. En plus, on sait que François Hollande, à un moment donné, aurait pu penser éventuellement ou Bernard Cazeneuve, mais ça doit pas lui faire tellement de peine à Ségolène de montrer qu'elle est encore à leur niveau et même, au-dessus.
Mais est-ce que c'est pas quand même une erreur de lecture est-ce que c'est pas une erreur de lecture politique de sa part de penser qu'elle peut rassembler Elle dit, elle promet une candidature socialiste pour rassembler la gauche. Mais est-ce que politiquement, est-ce qu'elle loupe pas un train? C'est-à-dire que là, on se dirige de plus en plus vers une candidature écologiste qui rassemble la gauche et non pas l'inverse.
Oui, mais elle peut dire, mais moi, j'étais ministre de l'écologie en faisant oublier l'écotaxe.
Fessenheim, elle a promis de faire quelque chose sur Fessenheim. Elle n'a jamais mis les pieds une seule fois à Fessenheim. Elle a promis une usine Tesla sur place. Évidemment, tout le monde l'attend encore. Et quand vous parliez de son audace, là, je regarde encore une vidéo qu'elle a postée ces derniers jours sur son compte Twitter. Elle dit, par exemple... Elle fustige le gouvernement en disant sur la question du Ségur et des soignants. Je vous cite, il faut 24 heures pour régler le problème des rémunérations des personnels soignants. Enfin bon, ça saurait si la question de l'hôpital pouvait se régler en 24 heures. Aucun écologiste n'a gagné sans union de la gauche. Enfin, Strasbourg, ils ont gagné même avec un front anti-gauche et les socialistes qui n'allaient pas derrière eux. Donc elle s'arrange quand même fréquemment avec la question de la vérité.
Elle dit aussi qu'elle n'est pas dans un itinéraire personnel.
Mais justement, si elle le dit maintenant, là, précisément après la victoire des écologistes, c'est pour dire. Après tout, tout le monde est... Moi, je suis compatible avec les écolos et les écolos sont compatibles.
Oui, mais
avec
il y a des nouveaux visages qui sont venus avec ces votes écologistes. Il y a des nouveaux visages. Prenez Lyon, prenez.
Oui, mais
prenez
des nouveaux visages aujourd'hui qui parlent comme puis, Ségolène Royal, Catherine May, des nouveaux visages.
Elle parle à qui, Ségolène Royal? Elle parle aux médias, franchement. Elle parle pas franchement au-delà des médias.
Elle parle aux médias, mais en espérant que les Verts écoutent les médias. Parce que les nouveaux maires qui viennent d'arriver, qui promettent de ne faire des villes que piétonnières sans voiture, attendez, il faut les laisser s'installer, on va voir comment ils vont réussir, si la population va les suivre, vous savez.
Quand on dit qu'il y a un nouveau monde, il y a aussi un nouveau monde pour les femmes. Quoi. Sauf qu'il y a dans le groupe En Marche des femmes qui sont vraiment... même, je trouve, plus mature, plus prête à parler,
plus intéressante que
beaucoup d'hommes.
C'est vrai
que c'est un vivier plutôt féminin.
Non, mais où elle est formidable, Ségolène Royal, c'est que lorsque la Commission européenne en cherchait un candidat après l'échec de Madame... rappelez-moi son nom, la ministre...
Loiseau.
Non, à la Commission européenne. Ah, oui.
Ça nous reviendra.
Sylvie Goulard, eh bien, elle était candidate. Et la feuille de candidature, elle était prête à aller à la Commission européenne. C'est-à-dire, dès qu'elle entend un mot,
elle est candidate à tout.
Tout est bon à prendre, mais est-ce qu'elle est efficace derrière? Demandez aux pôles ce qu'ils en pensent.
On s'en souvient. Ils s'en souviennent aussi. Merci beaucoup, Catherine Ney, Michel Cotta, Jean-Rémy Baudeau. À demain, les grandes voix, 18h30.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
À suivre, c'est un journal complet, celui de Sébastien Krebs, le journal de 19h. L'Union européenne qui tape du poing sur la table et demande aux voyagistes de rembourser en espèces même les touristes dont les séjours sont annulés.
Europe 1.